VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 2 décembre 2019, en direct de Washington, Nani Totalani
et Michel Joseph.
Pour commencer, les titres.
Au Burkina, 14 morts, dont des enfants, lors de l'attaque d'une église protestante.
En Tunisie, un bus de touristes tombe dans un ravin, au moins 26 morts.
Au Tchad, un ancien premier ministre interpellé après une plainte pour escroquerie.
Dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, un avion de ligne essuie des tirs, mais pas de victimes.
En Syrie, environ 70 combattants tués dans de violents affrontements à Idlib.
Ici, à Washington, nos procédures contre Donald Trump, la Maison-Blanche refuse de participer à une audition.
Et le démocrate Joe Sestak renonce à la présidentielle américaine.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, au moins 14 personnes ont été tuées dans une attaque contre une église protestante hier dans l'est du pays. Il s'agit de Rontoukoura, une localité qui fait frontière avec le Niger. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Selon des sources concordantes, c'est pendant la messe que des individus armés sont apparus et ont ouvert le feu sur les fidèles. 14 morts et plusieurs blessés, selon le gouverneur de la région. Les forces de défense et de sécurité ont lancé une opération pour porter secours aux blessés et ont entrepris un ratissage dans la zone, précise le gouverneur. Des églises et mosquées avaient déjà été prises pour cible ces derniers mois par des groupes djihadistes. Le 23 mai, des assaillants, au nombre de 8, avaient ouvert le feu sur des fidèles lors de la célébration de la messe de dimanche dans l'église catholique de Toulfé, un village situé dans le nord du Burkina Faso. Et le 11 octobre, l'attaque de la grande mosquée de Salmossi, également dans le nord, avait fait 16 morts et des blessés. L'attaque avait eu lieu au moment de la prière du vendredi soir. Ce week-end, l'armée a annoncé avoir abattu 6 terroristes, dont un leader qui agissait dans la zone de Pau, à 145 km au sud de la capitale burkinabé, au cours d'une opération. Près de 500 000 personnes ont fui leur domicile dans le nord et l'est en raison des attaques, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui fait état d'une crise humanitaire en cours, touchant quelque 1,5 million de personnes dans le pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Signalons que ce n'est pas la première fois qu'une attaque est perpétrée à l'intérieur d'une église ou contre les fidèles dans cette région de l'Afrique. Le 26 mai, 4 fidèles avaient été tués lors d'une attaque contre une église catholique à Toulfé, localité du nord du pays. Le 13 mai, 4 catholiques avaient été tués lors d'une procession religieuse en honneur de la Vierge Marie à Zimten.
Par ailleurs, à l'autre bout du pays, dans l'ouest, à la frontière ivoirienne, des individus armés ont attaqué le poste frontalier de Yendéré samedi soir, faisant 2 blessés parmi les passagers d'un car de transport en commun, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.
Les assaillants, environ une vingtaine, lourdement armés, ont incendié un véhicule et emporté plusieurs motocyclettes, a précisé une source policière. Un ratissage a été mené après cette attaque et les assaillants se sont dispersés dans la forêt.
La brigade de gendarmerie de Ménaka au Mali a été la cible d'une attaque d'hommes armés qui seraient venus sur un moto. 2 gendarmes ont perdu la vie. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
L'attaque s'est produite ce dimanche entre 13h et 14h, heure locale, au poste de gendarmerie situé à la rentrée de la ville de Ménaka. Les assaillants, au nombre de 2, étaient venus sur une moto et ont ouvert le feu sur les gendarmes assis au poste. Le bilan est de 2 gendarmes tués et un 3e grièvement blessé. Les populations sont restées tirées chez elles toute la nuit puisque les autorités locales ont décrété un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Les personnes interrogées nous ont affirmé qu'elles vivent dans la crainte totale. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Par ailleurs, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a appelé ses compatriotes à ne pas mordre la main de ceux qui leur viennent en aide, dont la France, face aux expressions d'hostilité à la présence de forces étrangères dans le pays en guerre. Il a aussi annoncé le lancement officiel le 14 décembre d'un débat national pour tenter de dégager les solutions à la crise non seulement sécuritaire, mais multiforme à laquelle le pays est en proie depuis des années.
Le président malien a également indiqué qu'il se rendrait à l'hommage rendu aujourd'hui par la France à ses soldats. « Je m'incline devant leur mémoire », a-t-il dit, alors que des voix continuent à s'élever pour réclamer le départ des troupes françaises ou étrangères et pour les accuser de ne s'intéresser qu'aux richesses naturelles du Mali.
Les Tunisiens se sont réveillés ce lundi avec un nouveau bilan plus lourd de l'accident meurtrier d'hier dans la région d'Ain Snoussi. Les autorités font maintenant état d'au moins 26 morts. Jean-Roger Bion.
26 jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans ont trouvé la mort et 17 autres personnes ont été blessées. Toutes les victimes sont de nationalité tunisienne. Le bilan de cet accident de bus pourrait s'alourdir selon les responsables du ministère tunisien de la Santé. Le ministère de l'Intérieur précise seulement que le véhicule appartenant à une agence privée est tombé dans un ravin après avoir franchi une barrière en fer. Un porte-parole du ministère a indiqué à Associated Press que le bus faisait la liaison entre Tunis, la capitale, et Aïn, une localité très fréquentée durant l'automne. Une source a signalé à l'AFP qu'une enquête a débuté sur les lieux de l'accident. Le président Kais Saied et le premier ministre sortant Youssef Chahed se sont rendus sur place alors que les autorités cherchent encore à élucider les circonstances de ce drame survenu dans une zone montagneuse prisée par les touristes locaux.
Un avion de la compagnie aérienne camerounaise Comerco a essuyé dimanche des tirs d'armes à feu au moment de son atterrissage à l'aéroport de Mamena, dans la partie anglophone, sans faire de victimes, a annoncé Comerco dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et grâce à la bravoure du commandant de bord, l'appareil a pu atterrir sans heurte en dépit de l'impact observé sur son fuselage.
L'ancien premier ministre du Tchad, Kazbe Pahimi Debe, actuellement ministre d'État, a été interpellé dimanche matin par la police judiciaire à N'Djamena, a annoncé le porte-parole de la police tchadienne, le colonel Paul Manga. Le ministre d'État a été interpellé pour être entendu à la suite d'une plainte de l'inspection générale d'État pour escroquerie. Il est toujours dans les locaux de la police judiciaire alors que son audition est terminée, a précisé le porte-parole.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les ministres de l'Environnement et des experts de près de 200 pays se réunissent à Madrid ce lundi 2 décembre pour des entretiens annuels sur le climat, entretien mené par les Nations Unies. Gaby Dorsil pour plus de précisions.
La COP25 suit une série d'études alarmantes et de preuves concrètes des retombées potentiellement catastrophiques du changement climatique. Hier encore, le Royaume-Uni affirmait que les gaz à effet de serre ont atteint de nouveaux records l'an dernier, malgré les promesses mondiales de les réduire. La conférence qui s'ouvre ce lundi dans la capitale espagnole va durer 2 semaines et préparera le terrain pour 2020, la prochaine échéance de 5 ans à laquelle les pays devront mettre à jour leurs objectifs de réduction des émissions. Un grand point négatif pour les environnementalistes, l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis, devraient se retirer du pacte de Paris pour le climat en novembre prochain. D'autres pays, comme la Chine et l'Inde, continuent de dépendre d'industries polluantes, même lorsqu'elles adoptent les énergies renouvelables. Quant à l'Union européenne, elle propose un Green Deal visant à rendre la région neutre en carbone d'ici 2050. Des dizaines de pays se sont également engagés à augmenter leurs objectifs de réduction des émissions.
Le gouvernement français s'est réuni au grand complet dimanche pour faire le point avant le début d'une grève contre la réforme controversée des retraites défendue par Emmanuel Macron, qui s'annonce très suivie et risque de paralyser le pays à partir de jeudi. Jeudi s'annonce déjà comme une journée noire, particulièrement dans les transports ferroviaires, routiers et métropolitains, où les syndicats ont appelé à un mouvement illimité. La grève devrait être également suivie chez des contrôleurs aériens, les enseignants, les avocats, les éboueurs et le secteur de l'énergie.
Ici, aux États-Unis, la Maison-Blanche refuse de participer mercredi à une audition au Congrès qui marque le début d'une nouvelle phase de la procédure de la destitution contre Donald Trump, mais se réserve la possibilité de le faire ultérieurement, a annoncé son avocat. Et toujours aux États-Unis, le démocrate Joseph Stack a mis un terme dimanche à sa campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2020 passé quasi inaperçu.
Par ailleurs, 10 personnes ont été blessées par balles, dont 2 grièvement dans la nuit de samedi à dimanche dans un quartier touristique de la Nouvelle-Orléans, a indiqué la police de cette ville du sud des États-Unis. Parmi les victimes, 2 sont dans un état critique selon les autorités. Aucun suspect n'a pour l'heure été arrêté, mais la police a indiqué la police sur Twitter. Et à présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
L'Ouganda ordonne une enquête de faisabilité sur la construction d'un barrage hydroélectrique à proximité des chutes Murchison, 3 mois après l'annonce de l'abandon de ce projet controversé. Ce volte-face a provoqué la colère des défenseurs de l'environnement et des acteurs du tourisme opposés à ce projet hydroélectrique d'une capacité de 360 MW sur le Nil Victoria. Le groupe automobile américain Ford écope d'une amende de 2 millions d'euros en Afrique du Sud après l'embrasement de plusieurs véhicules de modèle Kuga. La Commission nationale du consommateur, saisie de 160 plaintes dans cette affaire, a conclu que Ford avait agi de façon illégale en distribuant des véhicules Ford Kuga équipés d'un système de refroidissement défaillant. Chaque propriétaire de véhicules qui ont brûlé recevra une compensation d'au moins 3 000 euros.
Et maintenant, place au sport. Bonjour Élisée.
Bonjour à tous.
Pour commencer, football. Première journée des matchs de poule des Coupes africaines de clubs et on commence par la Ligue des champions.
Oui, et le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis, s'impose 2-0 sur le terrain du Raja de Casablanca pour partager la tête du groupe D avec la JS Kabylie qui a battu 1-0 l'AS Vita Club de Kinshasa. Dans la poule C, le Mamelodi Sundowns a lui aussi pris un envol parfait en s'imposant à domicile 3-0 face aux Angolais du Petro Atlético de Luanda. L'autre match du groupe a vu l'USM Alger et l'Ouida de Casablanca se neutraliser 1-1.
Dans le groupe A, le TP Mazembe remporte le choc de cette première journée.
Un match qui pèse 10 Ligues des Champions face aux Zamalek du Quai, gagné 3-0 par les Corbeaux. Le club de Lumbashi, solide leader devant les Angolais du Primeiro Auto Agosto et les Zambiens de Zesco, qui ont fait match nul, un but partout. Enfin, dans le groupe B, victoire des Soudanais d'Al Hilal 2-1 devant les Zimbabwens de Platinum et des Tunisiens de l'Étoile du Sahel 1-0 face aux Égyptiens d'Al Ahly du Quai.
Première journée aussi en Coupe de la CAF et le finaliste de la dernière édition a fait parler son expérience.
Les Marocains de la Renaissance Berkane, méthodiques face aux débutants béninois des AE, score final 3-0. Une première expérience difficile, reconnaît l'entraîneur du club de Cotonou, Bio Richard.
Ce n'est pas une expérience, parce que les buts que nous prenons, vraiment, c'est des buts d'une expérience. Mais il faut reconnaître qu'en face, il y a un travail qui est fait et on avait en face vraiment une équipe digne de ce nom. Ça, il faut le reconnaître.
À l'instant, Bio Richard au micro d'Amin Birouk. Berkane prend donc la tête du groupe C devant les Congolais du Daring Club Motéba Pembe et les Zambiens de Zanaco qui se sont neutralisés un partout.
Élisée, ça s'est bien passé aussi pour d'autres équipes dont le groupe A, le groupe D et le groupe B.
Oui, les Égyptiens vainqueurs sur le terrain des Nigériens d'Enugu Rangers 3-1 partagent la tête du groupe avec Al Masri qui a dominé sur le fil 3-2 les Mauritaniens de Nouadhibou. Dans le groupe D, les Marocains d'Assani Agadi de retour en Coupe CAF 12 ans après leur dernier passage démarrent par une victoire 2-0 devant les Nigériens d'Enimba. Et puis, dans la poule B, pas de vainqueur sur les deux matchs. 1-1 entre les Libyens d'Al Nasr et les Maliens de Djoliba et 0-0 entre les Sud-Africains de Bivest et les Guinéens de Oroya.
Handball à présent, mondial féminin au Japon et nouvelle défaite pour le Sénégal.
Après une première sortie ratée face au Monténégro, les Lions se sont inclinés une nouvelle fois devant la Roumanie, score 24-29. Début difficile donc pour les sélections africaines. Aujourd'hui, l'Angola, championne d'Afrique battue d'entrée, va essayer de se reprendre face aux Pays-Bas, tout comme la RD Congo qui jouera le Japon pays hôte.
Basketball, direction Yaoundé, où deux équipes ont assuré leur place en Africa League pour mars 2020.
Oui, d'abord les Camerounais des FAP qui ont battu les Ivoiriens de l'ABC 77-64 et puis les Algériens de GSP pourtant battus en phase de poule par la Espoli du Mali mais qui ont pris leur revanche 76-61. Et puis la NBA pour finir avec vous les résultats de la nuit.
Miami Heat a battu Brooklyn Nets 109-106. Los Angeles Lakers s'est incliné devant Dallas Mavericks 114-100. Boston Celtics a vaincu New York Knicks 113-104. Memphis Grizzlies l'a emporté sur Minnesota Timberwolves 115-107. Detroit Pistons a chicoté San Antonio Spurs par 132-98. New Orleans Pelicans n'a pas fait le poids devant Oklahoma City Thunders, donc 107-104. Golden State Warriors a été battu par Orlando Magic, 100-96. Utah Jazz a aussi été vaincu par Toronto Raptors, 130-110. De nouveau avec vous, Nanit Talani, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pour commencer, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a profité d'une tournée à l'intérieur du pays pour s'adresser à ses adversaires de façon indirecte. Lors d'un meeting à Kachoula dans le Nord, il a laissé croire qu'il pourrait bien être candidat pour un troisième mandat en dépit de la constitution qui limite les mandats à deux. Aïcha Diaraï était pour VOA Afrique.
Kachoula était l'étape finale de cette tournée gouvernementale de 4 jours. C'est au stade Ouattara Thomas d'Aquin qu'a eu lieu ce meeting final où Alassane Ouattara a rassuré les populations quant à la sécurité des élections à venir.
L'élection présidentielle de 2020 se passera bien. Soyez sereins, pas de violence, parce que la sécurité est de retour. L'armée est une et républicaine. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010.
Toujours selon lui, l'une des raisons qui créerait un désordre serait l'exclusion de certains candidats. Pour la première fois, il lève une partie du voile sur sa candidature aux élections de 2020, annonçant qu'il sera candidat si ceux de sa génération le sont également.
Soyez rassurés, mon intention c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais, je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux ils décident d'être candidats, alors je serai candidat.
Réaction de quelques personnes après ce discours. Kwasi Kounan, Touré Kadi et Nda André.
Vraiment, ce monsieur-là, vraiment, même si on n'aime pas, mais avec ce qu'il a fait, là, vraiment, il travaille. Donc, on veut qu'il continue.
Vraiment, le discours du président était bien. Nous sommes très contents. Parce que depuis 2015, on l'attendait, on ne le voyait pas. Donc, on avait soif de faim. Donc, vraiment, le message qu'il nous a dit là, ça nous a vraiment plu. C'est un travailleur.
Pour moi, sincèrement, s'il a vraiment l'intention de laisser le pouvoir, qu'il laisse le pouvoir sans condition. Mais cette condition qu'il pose là, pour moi, ça veut dire déjà qu'il ne veut pas laisser.
En 2020, Alassane Ouattara sera au terme de son second mandat. Et ses adversaires n'attendent qu'une seule chose, qu'il se retire de la scène politique. Aïcha Diarra, de retour de Kachoula pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, de nombreux retraités éprouvent d'énormes difficultés à entrer en possession de leur pension. Même les anciens fonctionnaires et agents de l'État sont concernés par ces lenteurs. La semaine dernière, le ministère des Finances, qui gère la solde des personnes retraitées, s'est penché sur la question, nous dit depuis Yaoundé notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
La principale plainte des retraités se rapporte au délai du traitement de leur dossier. Cette période de longue attente est décriée par ces personnes de troisième âge.
J'ai quand même eu l'arrêté de mise en retraite. Je suis allée en retraite en décembre 2011. Jusqu'à ce jour, il y a deux avancements qui manquent. Et ce n'est que depuis quelques mois que j'ai commencé à toucher. Je suis allée à la retraite en 2016.
D'après les statistiques du ministère des Finances, les personnes attendent parfois plus de 4 ans entre la date de retraite et le moment de paiement définitif de leurs droits à pension. Une attente encore plus longue pour les veuves et pour ceux qui concernent les pensions à la réversion. Autre obstacle majeur, l'obtention de l'acte de mise à la retraite, une pièce incontournable avant toute prise en solde par l'État. Mais peu de retraités l'obtiennent à temps, explique une sexagénaire.
Sortir la note de mise en retraite, ça a dû prendre presque 2 ans. Le dossier était dans un bureau. Il
fallait que je connaisse une femme au ministère pour qu'elle puisse marcher derrière. Et chaque semaine, je passais.
Retraités et sans argent, certains se rabattent au village et vivent dans des conditions de précarité.
Tu es obligé d'aller d'abord prêter 2000 pour venir même rendre peut-être 2500. Parfois, on nous manque même 100 francs en main comme ça. Je suis déjà même découragée. J'ai fait plus de 3 ans avant d'entrer en possession de ma retraite complètement.
Il faut plus de célérité dans la chaîne de production des actes de concession des droits à la pension. Sous l'égide du ministère des Finances, le responsable en charge des ressources humaines et des pensions se sont concertés à Yaoundé pour résoudre ce dysfonctionnement. Cyril Edou Allo, directeur général du budget.
Nous sommes en pleine réforme de maîtrise du fichier de la solde et des pensions. Cette réforme implique les bases de données de traitement, l'allègement des procédures. Le gouvernement va décider de l'ensemble des réformes à mener pour réduire les délais de traitement.
La déconcentration de la gestion de la solde des pensions est l'une des réformes du gouvernement en vue de la modernisation de la gestion budgétaire. Les pouvoirs publics espèrent par là accélérer le traitement des actes de pension. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Congo-Brazzaville, plus de 100 000 personnes victimes des inondations dans le nord du pays continuent d'attendre l'assistance des autorités. Faute de moyens, le gouvernement a lancé un appel à l'aide internationale et le Programme alimentaire mondial a commencé à apporter les premiers secours. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Ces inondations dues aux récentes pluies diluviennes touchent les départements de la Likouala, la Sanga, la Cuvette et des plateaux dans le nord du pays. Les autorités n'ont pas hésité de décréter l'état d'urgence dans ces régions. Les rescapés des eaux, environ 100 000 personnes, sont dans la détresse. Au ministère en charge de l'action humanitaire, on attend toujours de l'argent pour intervenir plus de 2 semaines après la catastrophe. Clément Esséke, directeur général de l'action humanitaire, tourne les pouces dans son bureau à Brazzaville.
Certains élus, enfin, qui sont venus nous voir parce qu'ils ont certainement constaté que la réponse ne venait pas. Et on est en train de parler d'une inondation jamais connue. Il y a déjà plus de 20 ans que dans ces localités, on n'avait plus vu ce genre de phénomène-là. Ils avaient l'impression que les pouvoirs publics, notamment le ministère en charge de l'action humanitaire, ne faisaient rien. Et il y avait près de 7 députés de ces zones-là.
Sur le terrain, les populations se sont réfugiées dans les forêts ou sur quelques mottes de terre épargnées par les eaux. Bernadette Onze, une députée de Makoti-Poko, localité sous les eaux.
Parce que le district en lui-même, il est à 25 000 habitants. À ce chiffre, on ajoute les déplacés de la RDC qui se trouvent là. Donc, on est plus de 30 000 personnes. Parce que là, eux aussi, ils ont besoin d'assistance. Parce que là, ils sont vraiment dans l'eau.
Le gouvernement est à la recherche de l'argent pour intervenir. À son appel, certaines organisations internationales comme l'EPAM, l'UNICEF ou le ICR agissent. L'EPAM a déjà assisté plus de 13 000 personnes, selon Jean-Martin Bauer, son représentant.
Alors nous avons réussi à ce jour à assister 12 800. Donc chaque jour ça change. La zone est très difficile d'accès. Il s'agit de villages qui sont construits sur les bords de l'Ubangi, tout au bord de l'eau, parce que ce sont de bons endroits où pratiquer la pêche. C'est aussi les terres basses où on peut cultiver le manioc ou la banane. Mais malheureusement, cette position a fait qu'ils ont été affectés par cette dernière inondation. Et donc, l'accès se fait par bateau. Ils se déplacent par pirogue pour venir aux 13 points de distribution qui ont été mis en place. HCR est sur place, le PAM est sur place. Il y a des ONG sur place et ça nous a permis de déclencher les premiers secours.
Ces inondations ne touchent pas que le nord du Congo. Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales villes, sont également dans la crue. De nombreux dégâts humains et matériels sont déplorés, mais ce n'est que le début de la saison pluvieuse. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le président américain Donald Trump fait face à un processus de mise en accusation à la Chambre des représentants du Congrès. Mais c'est au Sénat que reviendra la tâche de décider s'il faut ou non le démettre de ses fonctions. Des précisions de Lionel Gaïma.
La mise en accusation du président Trump par la Chambre de représentants passe par l'élaboration et l'adoption d'articles l'inculpant des crimes dont il est accusé. L'affaire est ensuite jugée par le Sénat. Lorsque le mis en cause est le président de la République, alors c'est le président de la Cour suprême qui décide le procès, explique Susan Lowe-Blodge de la faculté de droit de l'Université Georgetown de Washington.
Sinon, c'est le vice-président qui préside déjà le Sénat, ce qui représenterait pour lui un conflit d'intérêts.
Plusieurs membres du parti majoritaire à la Chambre, les démocrates actuellement, des représentants joueront le rôle du procureur. Les membres du Sénat, eux, seront les jurés. Ils écouteront les chefs d'accusation, de même que d'éventuels témoins. La personnalité jugée aura droit à des avocats pour se défendre. Les voix d'au moins 2/3 de sénateurs sont nécessaires pour limoger le président. John Fortier, du Centre politique bipartisan.
Pour qu'un président soit démis de ses fonctions, les deux parties, une importante majorité des deux parts, doit se mettre d'accord.
Au printemps de 1868, le procès du président Andrew Johnson a pris 11 semaines. Des 11 articles de mise en accusation présentés aux sénateurs, seulement 3 ont fait l'objet de vote. Alors que la plupart des sénateurs s'étaient prononcés en faveur du limogeage de Johnson, il leur manquait une voix pour atteindre la majorité des 2/3 nécessaires pour le faire. Thomas Schrod de Vanderbilt University.
Ainsi donc, les 2/3 sont fondamentaux. Vous devez convaincre un grand nombre de législateurs au Sénat.
Le procès du président Bill Clinton a eu lieu devant un Sénat politiquement divisé. Les républicains y étaient majoritaires, mais faisaient face à des réélections difficiles. William Galston de la Brookings Institution, ici à Washington. It came over to the Senate.
Le dossier est arrivé au Sénat et il y avait suffisamment de décence et de bonne volonté dans les deux camps. Républicains et démocrates ont dit « Nous ne sommes pas d'accord avec le résultat, mais nous pouvons convenir d'un processus digne » et ils l'ont fait.
Après 4 semaines de procès, les sénateurs n'étaient pas parvenus à la majorité des 2/3 nécessaires pour juger le président Clinton coupable. Pour ce qui est du président Trump, il compte sur la majorité républicaine du Sénat pour le tirer d'affaire.
Hurt on mankind, just a save his own belief.
One love.
This holy Armageddon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah.
One love.
C'est sur ce titre de Bob Marley, One Love, que nous nous disons au revoir. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Nanit Talani, merci de l'avoir suivi. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, sans oublier Pidi à la console. Nanit Talani à Washington. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.